Le gagnant est les Ribous.
Alors, je vais remercier ceux que l'on remercie assez peu souvent, mais je crois qu'ils sont assez étonnants en France, sont les spectateurs. C'est le public français. Je remercie ce public qui m'encourage depuis pas mal de temps, depuis 71, date de mon premier film. Ça a souvent été le seul, mais c'est pas mal. Et c'est à ce public français que je dédie le César du meilleur film. Merci.
Oh, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
On a all to vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel?
On a all to vous. Non, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Remercier le public quand on reçoit un César chez lui, ce n'est ni une pause, ni de la flagornerie, mais de la reconnaissance véritable envers les spectateurs. Le ciné-chiffre est éloquent, impressionnant. 80 millions d'entrées en France en 25 films. Personne ne dit mieux. L'auteur de ce carton plein est sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Des bidas en folie au Ripoux 3, une filmographie qui a fait marrer la France entière et pratiquement sans reconnaissance critique. Bonjour Claude Didi.
Bonjour.
À l'inverse de votre cinéma extraverti, vous êtes réservé, pudique, caché derrière ces films fous, insolents, burlesques. Vous, si rare dans les médias, comme on dit, merci d'être avec nous ce matin pour commenter cette œuvre, oui, cette œuvre qui a raconté si drôlement notre société et portée par de très grands acteurs, Auteuil, Coluche, De Funès, Villeray, Richard Lhermitte, Noiret, Clavier, Depardieu, Galabru et tant de second rôles. Aussi, Claude Didi dans deux livres récents, et les sorties Blu-ray des Soudoués et un doc sur OCS. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma entre un film polonais La Communion et une curiosité colombienne Monos. On trouvera De Gaulle, Woman, Oscar et Lily. On va dire que c'est parti.
Pourrais-je parler à Madame Desvalets, s'il vous plaît? C'est de la part de son mari.
Je t'ai téléphoné, chez le coiffeur.
Ah bon? On m'a rien dit?
Non, tu étais déjà parti. Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. Enfin, vous comprenez? Il faudra me dire la vérité.
Pourquoi démarrer cette émission avec vous, Claude Didi, par un extrait de La femme infidèle de Claude Chabrol? Eh bien parce que vous avez beaucoup travaillé avec lui à vos débuts. C'est même grâce à lui que vous êtes devenu cadreur.
Oui, j'étais assistant opérateur et oui. il m'a gentiment fait passer caméraman, vous voyez. Une promotion et c'est un métier très différent finalement.
Parce que voilà. Vous avez fait avec lui Landru, Le Tigre avec la...
M. La Chair Fraîche,
Marie-Chantal contre Docteur K, oui. Le Scandale, La Route de Corinthe, La Ligne de Démarcation, Les Biches, La Femme Infidèle, Le Boucher...
Que la Bête meurt.
Qu'est-ce que vous avez appris en le regardant travailler, Chabrol?
Ben, j'ai pas eu l'impression d'avoir, j'ai appris sans le savoir.
Oui.
Savoir que j'apprenais sans... Non, ce qui était impressionnant chez Claude, d'abord, c'est sa façon de tenir un plateau, son autorité sans...
Naturelle.
Oui, complètement naturelle, sa façon de jouer avec le temps qui passe. Il ne dépassait jamais, quasiment, jamais d'heures supplémentaires. Il se débrouillait avec la situation. Oui, avec voilà, il arrangeait sa mise en scène avec les circonstances, avec voilà, c'était assez fascinant. Il n'était jamais pris au dépourvu. Il répondait très peu aux questions qu'on lui posait. Il aimait pas qu'on lui pose des questions, donc à la fin on lui en posait pas.
Ouais.
Quand j'ai commencé à être cadreur avec lui, il me disait tu mets un travelling de là.
Ouais.
Oui, bon, d'accord, oui, ok, bon, mets le travelling, mets la caméra, tu verras. Et finalement, le plan, il s'ébauchait peu à peu, et finalement, le plan, je voyais quasiment la première prise, vous voyez, parce que, tiens, les acteurs, ils vont venir de là, puis non, ils vont venir de là, vous voyez, bon, voilà.
Dans la liste que Christine a indiquée, il y a, selon l'aveu même de Chabrol, des navets et des chefs-d'œuvre. On le
dans
sait,
quelle,
ça.
Dans quelle liste?
Dans la liste des films auxquels vous avez collaboré avec Chabrol. Il y a des grands films, mais de son propre aveu lui-même. Hein. Et puis il y a des films disons moyen, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça vous le sentez, on le sent dans ces cas-là au tournage déjà, on sent que Le Boucher est un film.
Non, pas du tout.
Ah, pas du tout.
Non, on sent que les comédiens sont excellents.
Ah, bon, ça bien sûr.
Voilà, oui. Et puis voilà.
Mais pas plus que ça.
Non, pas plus que ça.
Mais même ils sont excellents aussi dans Le Tigre
et
les autres, non?
Oui, mais enfin, écoutez, Jean-Yann, c'était quand même...
Jean-Yann dans Le Boucher.
Jean-Yann dans Le Boucher et dans Quelle Bête Meurt, c'est... Bon, ouais. Il est plus qu'excellent.
C'est drôle que vous l'ayez jamais engagé, lui.
Si, j'ai tourné avec lui.
Mais zut alors, sur quel
film? Non, Profil Bas, je crois.
Ah oui.
Il fait un flic.
Parce que là, c'est pas un rôle énorme.
Non,
c'est non. Non. Non, parce que c'est une personnalité à l'époque. Oh, et oui. Après, il a fait des films... que vous auriez pu aussi faire, vous,
oui,
par rapport à la société.
Ses propres films, ceux qu'il a réalisés.
Oui, d'abord,
ceux qu'il a réalisés.
Oui,
justement, lui aussi, il s'appuyait sur des phénomènes de société.
Exactement. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, ces films-là.
Oui, oui.
Si on remonte un petit peu avant...
Les Chinois à Paris aussi.
Oui, oui, c'est vrai. Si on remonte un peu dans le temps, votre formation technique, vous l'avez eue dans une école qui est l'école de Vaugirard.
Grande école
qui est maintenant l'école Lumière. Et en fait, vous habitiez rue de Vaugirard et puis vous êtes arrêté, vous avez vu cette école. Et
oui, je voyais une école que je croyais fermée d'ailleurs.
Ouais.
Puis un jour, j'ai vu quelqu'un à la fenêtre avec une caméra.
Non. Dit,
c'est vrai.
C'est pour vous raconter en tout cas. C'est vrai.
Non, c'est vrai. Ouais. Je suis rentré, j'ai demandé... Bon, l'école était en activité. Ouais. Alors j'ai demandé comment on rentre chez vous. Bon, ils m'ont pas dit par la porte, mais ils m'ont dit il y a un concours. Alors j'ai passé le concours d'entrée et voilà.
Vous dites qu'il y a peu de réalisateurs français qui connaissent bien la technique, qui ont une formation de technicien.
Non, mais il n'y a pas besoin de très bien connaître la technique non plus.
Je sais pas, parce que quand on est cadreur, après...
Faut aller voir des films, c'est tout, quoi.
Je sais pas, c'est quand on est cadreur, on...
Oui, mais ça... Bon, non, je sais pas... Non, j'ai tourné avec des metteurs en scène, parce que comme caméraman, qui n'avait presque jamais vu une caméra, et...
Ouais.
Bon, et puis, à l'arrivée, vous avez un film. Quoi.
Vous avez été assistant beaucoup sur beaucoup de films étrangers, aussi.
Oui, des grosses machines américaines,
ouais.
Oui. Le jour le plus long, par exemple.
Par exemple, vous faisiez quoi sur Le jour le plus long?
J'étais assistant opérateur,
ouais.
M'occupais de la caméra, enfin, une des nombreuses
caméras.
Une
des caméras.
Voilà.
Vous aimez filmer les acteurs, plus que les actions?
Oui, mais je filme pas les acteurs, mais je filme les personnages. Vous voyez? Ce que je veux retrouver, c'est le personnage. Et souvent avec un... Bon, mais s'il est bien interprété, c'est quand même... C'est pas plus mal, quoi.
Dès Chabrol, vous pensiez déjà à la comédie, vous notiez des gags, des choses sur des petits carnets.
Oui, oui,
En fait, est-ce que vous vouliez... Vous aviez dans la tête l'idée de faire des films... Comme ceux que vous vouliez voir quand vous étiez plus jeune.
Oui, la comédie. Oui. J'adorais la comédie.
Qu'est-ce que vous aimiez comme comédie à l'époque?
Un peu tout. Vraiment des... Moi, j'ai découvert les comédies américaines, par exemple, après la guerre.
Ouais.
Bon, tout ce qui est... Et là, bon, les...
Au moment où les écrans sont libérés, d'ailleurs.
Oui, aussi. Les films d'aventure, évidemment. Ça, aussi. Tout le cinéma américain a débarqué dans les années 45. Voilà, mais j'allais voir les comédies françaises avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
Ouais.
Et Francis Blanche. Et oui. Il y avait toujours Francis Blanche.
Francis Blanche.
Il y avait Derrick Cole aussi.
Et Maurice Biraud aussi, non?
Et Maurice Biraud.
Ouais.
Oui, il y en avait.
Vous étiez...
Mais j'ai vu Fernandel aussi. Et Rému.
Oui. Vous étiez chef opérateur pour Philippe Clerc sur la Grande Java avec les Charlots. Et d'ailleurs, vous avez travaillé un peu sur ce film, sur le découpage même du film.
Oui, c'est comme ça d'ailleurs que...
Et les Charlots vous ont réclamé. Avant d'écouter un extrait du premier film sur les Bidasses en folie, j'aimerais que vous nous resituiez les Charlots. Ils étaient super célèbres à l'époque, les Charlots.
Ah oui, absolument.
C'était un
ils sillonnaient la France avec eux, oui, ils avaient quelques tubes. Merci Patron a été un tube.
Ouais.
Paulette, un autre tube. Absolument, oui, des stars. Oui.
On va passer un extrait des Bidasses, donc, avec le colonel Jacques Dufilho.
Oui, entrez. Entrez, avancez. Détendez-vous. Tout va bien? Vous n'avez aucune réclamation à formuler? C'est curieux, je suis sûr que je vous ai déjà rencontré quelque part.
C'est sûrement ici, mon colonel.
Oh non, ça ne fait rien, bref. Dites-moi, vous êtes musicien, hein? Enfin, vous faites du bruit.
Ah, ce touriste. C'est nous, mon colonel.
Oui, est-ce que ça vous amuserait de rejouer un peu, hein?
Encore un coup pour éplucher les patates.
Non. Voilà ce qui se passe. Demain, ce sont les fiançailles de ma fille. Il y aura beaucoup de jeunes. Ils adorent la pop musique. Alors, je voulais vous demander si vous pouviez animer ça un petit peu. Vous êtes d'accord? Quoi? Vous refusez?
Non, mon colonel, mais c'est impossible. On n'a pas de guitare.
Quoi?
Le guitare est en prison.
Oh, et on ne peut pas se passer de guitare.
Un groupe sans guitare, c'est une prison sans barreau.
Oui, bon, ça ne fait rien. Je vais arranger ça.
Ce film, Le Bidas en folie, tourné en 28 jours, en décor naturel, que vous écrivez avec ces cinq comédiens, enfin ces garçons un peu dingues aussi, hein, un peu...
Ah, il était fantaisiste,
un peu incontrôlable, ah, hein.
Non,
ça allait.
Oui, oui.
Mais c'est fou, en le revoyant, il y a 10 gags à la minute, mais il y a une énergie dans ce film absolument considérable, mais vous à l'écriture.
J'étais jeune.
Non, mais avec des gags aussi parfois surréalistes.
Oui, un peu, oui. Oui,
ça vient d'où cet esprit-là, parce que...
Je sais pas, peut-être l'école de Vaugirard, je sais pas.
Non, mais c'est drôle, il demande un steak bleu, vous lui amenez...
Un steak bleu, parce que ça m'a... Non, mais ça vient de... Parce que j'ai toujours été surpris... par ce côté, le côté steak bleu. Quand j'étais gamin, je me dis, mais c'est curieux, parce qu'ils amènent un steak bleu, ils demandent un steak bleu, et le steak, il n'est pas bleu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors, le jour où j'ai eu l'occasion d'en faire un vraiment bleu, je l'ai fait.
On peut dire que, plus sérieusement, Les Bidas est une réflexion sur le devoir d'indiscipline. En fait, c'est les garçons qui veulent être libres dans une...
Oh, ils font pas ça par devoir, parce qu'ils font ça parce qu'ils...
Ils sont indisciplinés.
Oui, mais même entre eux, ils le sont. Mmh. Voilà, ils sont. Puis l'époque, vous savez, c'était quand même les années post-68 tard. Ouais, on était en plein dedans. C'était en 71, hein, je crois.
Oui, exactement.
Bon, voilà, la discipline, c'était...
L'antimilitarisme, c'est un truc de vieux.
En le revoyant, je me demandais, est-ce que vous aimez l'humour des Monty Python, par exemple, en Angleterre?
Oui, beaucoup. Oui.
Parce que c'est très proche des Monty Python. Ah, oui.
J'ai du tout piqué, alors.
Non, mais voilà. Ce que je voulais dire, c'est presque un esprit anglo-saxon en France.
Bah, il y avait les quatre garçons dans le vent aussi.
Ouais.
Vous voyez, dans cet esprit-là. Ouais. C'est l'esprit de l'époque.
Le film sort, il fait, tenez-vous bien, 12 millions d'entrées. Un peu plus?
Non, un peu moins.
Un peu moins. 9? Ouais.
Un peu moins encore.
Non, mais Claudie dit, c'est énorme.
Non, il a fait 7,5, je crois.
Non, mais c'est votre premier film.
Ah,
Mais comment vous réagissez à ça? Vous dites, c'est mon talent ou c'est ce que les gens ont envie de voir, ils ont envie de rire de ça? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là?
C'est troublant, évidemment.
Ah, oui.
C'est troublant, oui.
Oui, c'est très troublant. Oui. Et en même temps, on croit à une forme de destin, donc on se dit, ça fait partie de ce qui doit m'arriver, quoi.
Ah bon?
Ah oui. Bah, déjà, être metteur en scène.
C'était pas prévu.
C'était pas du tout prévu.
Ouais.
Donc, en plus que le film marche, c'était pas. Et voilà, je sais pas, j'étais agréablement surpris, si vous voulez, mais j'ai pas été effondré, quoi.
En même temps, on se dit. En même temps, ça met la pression énorme pour la suite.
Non, parce qu'on a tourné avec les
Charlots. C'est ça, mais c'est
non, justement, parce que j'ai fait 3-4 films avec les Charlots.
Oui, justement.
Bon, je me dis, j'ai calmé le jeu.
Ouais.
J'ai dit, OK, on continue avec les mêmes en tentant de passer à autre chose. Ouais.
On va faire un grand saut dans le temps, en même temps pas énorme, de 5 ans, avec ce film L'aile ou la cuisse, un film dont l'idée est née dans un restaurant.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ce restaurant?
Bah non, parce qu'on me demande. Si je dis, vous voulez. Non, je bafouille.
Vous voulez
L'aile ou la cuisse, voilà. Et ça fait tilt. Dites, ça, c'est un titre.
Mais à partir de là...
Il reste à faire un scénario.
Oui, oh là là, mais c'est,
oui.
C'était plus
compliqué. Voilà.
Oui, parce que ça, c'est un titre, et puis on se dit, tiens, on venait de parler, je crois, d'un guide gastronomique.
Ouais.
Je me dis, tiens, il y a peut-être un film à faire aussi à partir de ce titre, sur un guide et sur un inspecteur, avec tout ce qui tourne sur la surveillance des restaurants.
Un guide de couleur rouge, plutôt.
Un guide de couleur rouge.
Contre la malbouffe, déjà, à l'époque.
Ah, le guide n'est pas contre la
malbouffe. Non, mais dans le film...
J'étais un peu remonté sur les restaurants, là, les restaurants...
Jacques Borel.
De Jacques Borel.
Restaurant d'autoroute.
Quand même.
Oui, c'était pas terrible.
Puis avec eux, quoi, il y avait...
C'est vrai.
Il n'y en avait pas d'autres, donc il n'y avait pas le choix, etc.
Vous écrivez le scénario avec un homme qui est très important dans votre vie, c'est Michel Fabre.
Oui, c'est un très bon ami.
Ouais, Michel Fabre, c'était un homme qui était dans un Mac Mahonien, c'est-à-dire un copain avec Tavernier, cinéphile.
Oui, il a été acteur aussi dans, dans À bout de souffle.
Oui, il était avec Daniel Boulanger. Voilà, exactement.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il apportait à votre cinéma un regard sur la société, justement, qu'il avait ou...
Non, plutôt un regard sur le scénario,
oui.
Sur les gags, sur les trouvailles.
Ouais.
Il était très critique et souvent, il inversait souvent les situations. Ce qui fait qu'on trouvait une situation plus intéressante, si vous voulez. Il jouait beaucoup sur le paradoxe.
Ouais. Ça s'écrit souvent à deux, hein. Enfin, un scénario de comédie, ça s'écrit même presque forcément à deux, non?
Bah, le premier, je l'ai écrit tout seul, mais après, quand même.
Il faut être deux pour que la balle s'échange.
Oui,
quoi,
même
pour
trois, des fois.
Même trois, parfois. Oui, les Italiens sont quatre ou cinq à grande époque. Ouais. Pour que la balle s'échange, pour que le gars naisse plus facilement.
Oui, exactement. Mmh. Oui.
On va écouter cette scène lorsque De Funès découvre que son fils, dont il pense faire son successeur, est un clown et son fils est Coluche.
Ça te fait de la peine, papa?
T'inquiète surtout pas.
Ah bon?
Mais j'aurais aimé l'apprendre autrement.
J'ai essayé de t'en parler plusieurs fois, mais enfin...
Ça fait longtemps que tu...
Ben, il y a quelque temps, j'ai pris des cours de comédie, tu te souviens?
Oui.
Mais t'as pas tellement apprécié, toi.
Je t'avais demandé de choisir et tu es resté avec moi.
Ouais, puis j'ai monté ça.
Et ça marche?
Ça les marre.
Les histoires de tarte à la crème, ça les fait rire?
Ouais.
Oh... Ben alors, moi, par exemple, je prends ce sourire et mon rire.
Peut-être, ouais. Ah ben, t'as raté.
Comme toi.
Peut-être que t'avais pas envie de le faire rire.
Parce qu'il faut avoir envie.
Ah oui. Oui.
Effectivement, j'ai envie de faire rire personne. J'ai pas envie de rire moi-même. Alors, continue à faire rire. Ça, 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 ça. Allez, hop, adieu. Voilà.
Elle est géniale, cette scène, Claudie dit. En fait, elle dit, cette scène, elle dit, c'est pas si facile de faire rire. Elle dit ça aussi, cette scène-là.
Non, c'est sans doute. Hein. Enfin, je peux pas vous dire que c'est très difficile. Mais
si c'est difficile.
Il faut essayer, quoi.
Mais c'est difficile de faire rire.
Oui, je sais pas. Vraiment, la question m'embarrasse, là. J'ai pas envie de vous dire, oui, c'est très dur, mais j'y arrive, voyez.
Non, mais j'ai l'impression que c'est vous qui parlez à travers eux, vous voyez, en train de dire...
À un moment, oui.
C'est... Ben oui, et notamment là, quand même.
Oui, oui. Mais c'est une scène qui n'est pas tellement faite pour faire rire. Elle n'est pas faite pour faire rire.
Non, elle est faite pour réfléchir.
Parler
elle...
du rire.
Elle est, presque, elle est presque douloureuse, cette scène, quand il dit que son fils est un raté.
Ben oui.
Ben oui.
Il le vire, en plus.
Oui.
Oui, oui.
Coluche est en pleine ascension à ce moment-là. Mmh. Il rencontre De Funès. Ça se passe comment entre les deux?
Ça s'est très bien passé. Oui.
Malgré des débuts un petit peu compliqués où De Funès riait.
Oui, il a coupé une scène une scène où Coluche était drôle. Il l'a coupé. Il était de dos et De Funès était de dos et il a coupé donc en se marrant. Il a éclaté de rire. Et bon. Je suis obligé de couper et Coluche dit mais pourquoi vous avez ri, Louis, pourquoi vous avez ri? Parce que vous étiez drôle. Oui, d'accord, mais j'étais drôle, mais c'est coupé. Alors ne recommencez plus.
Oui. Oui.
Ils sont très bien entendus.
Ouais. Est-ce que ça vous ennuie? Dites-moi si ça vous ennuie ou pas qu'on parle de ce film-là parce que c'était votre premier gros échec, c'est Bête mais discipliné.
Si j'arrive à en parler, oui, on verra. Je n'ai pas revu le film.
Tout ça pour dire, un échec, pour vous, c'est vécu comment, après tous ces succès?
Vous c'est un ratage, quoi.
Oui. Vous remettez en cause ou pas, à ce moment-là?
Non, on met en cause le scénario.
Ouais.
Voilà, entre autres. En général, c'est souvent un problème de scénario.
C'est Villeray qui vous avait présenté Kaminka, d'ailleurs, qui était votre scénariste.
Oui.
Ouais. Et Kaminka, avec lequel vous écrivez notamment aussi... Les Soudoués.
Les Soudoués.
Kaminka, c'est un grand dialoguiste aussi.
Un excellent, oui.
Ouais.
Ah, oui.
Et cette idée des Soudoués, elle est venue comment?
Elle est venue, j'avais mes deux filles aînées, Hélène et Claudine, qui un jour, à l'époque du bac, elles se préparaient et elles ont invité deux copines qui avaient passé le bac l'année d'avant.
Ouais.
Et elles parlaient entre elles de comment elles avaient réussi leur. en trichant, quoi. Il y en avait une qui avait écrit je ne sais plus quelle matière sur sa cuisse gauche, et puis une autre matière sur, je sais pas où, sur la cuisse droite.
Oui.
Donc elle relevait ses jupes, et comme ça, elle a pompé, quoi.
Et en fait, à travers ce film, vous découvrez, vous nous faites découvrir Daniel Auteuil, qui est tout jeune acteur à l'époque. Vous le découvrez au théâtre, c'est ça?
J'avais déjà tourné avec lui.
Ah d'accord, dans quel film?
Dans Bête disciplinaire,
ouais.
Au début.
Oui. Et d'ailleurs,
il y a Lanvin.
Oui.
Il y a lui, ouais, il y a un troisième.
Toute la génération. Ouais. Et il vous ment sur son âge. Il vous dit qu'il a 27 ans pour jouer les sous-doués qui passent le bac. En fait, il en a 30 déjà.
Oui, il a.
On signale que Gaumont vient d'éditer pour la première fois en Blu-ray les Sous-doués 1 et les Sous-doués 2. Tout bon. Ça, il faut le dire aussi, fait ensuite des succès télévisuels phénoménales. Ça, on donne les chiffres de sortie cinéma, mais si on additionne avec en plus les audiences de télévision, alors là, on atteint des sommets pyramidaux.
Non, mais c'est vrai, ça donne le tournis quand même.
Non, j'ai pas le tournis.
Jamais. Vous êtes effectivement assez caché, vous, derrière vos succès, vos films. Vous n'aimez pas tout ce qui est représentation.
Du tout.
Du tout.
Pas tellement, non. Enfin, je suis là, quand même.
Non, mais on vous voit, on voit sur les tournages, vous êtes très, très active, etc. Comme si tout se faisait assez facilement.
C'est un peu Chabrol qui m'a...
Eh ben, voilà.
Voilà, qui m'a appris.
Il y a un objectif.
Vous pouvez tourner sans crise de nerfs.
Oui.
Sans tension.
Oui.
Mais vous avez pratiqué assez peu le service après-vente. Des films, c'est-à-dire que vous...
Si, parce que je suis pas très bon, vous voyez.
Non, mais voilà, vous avez estimé
que... je préfère envoyer des comédiens, qui eux, savent le faire, bon, c'est leur métier.
Mais qu'est-ce qui vous amuse le plus? Écrire, tourner, monter?
Écrire.
Ouais.
Écrire.
Avec vos copains.
Bon, c'est angoissant des fois, parce qu'on se demande si... Souvent, au milieu d'un scénario, si on va arriver à le terminer. Et dans quel état il sera à l'arrivée.
Ouais.
Et puis, le tournage, j'aime beaucoup. La préparation, c'est fastidieux, un peu, quoi. Pour trouver un décor, il faut en voir 50. Vous voyez, le casting, j'aime pas du tout. Je n'aime pas. Et puis le montage, j'aime. Le tournage, je suis à l'aise. Mais le montage aussi, voir toutes les erreurs qu'on ne peut plus corriger.
Ouais.
C'est pénible.
Il y a deux producteurs très importants dans votre vie, c'est Claude Berry et Christian Fechner.
Non, il y en a un troisième.
Ah, c'est qui?
Le premier. Michel Ardan.
Michel Ardan, bien sûr.
Quand même, qui m'a fait faire mon premier film.
Oui.
C'est très important, le premier film.
Mais oui, mais moi,
je ne peux pas commencer par le deuxième.
Non, c'est vrai. Mais quand je parlais de Fechner et Berry, c'est quand même des types que vous pouviez appeler ou qui vous appelaient en disant « fais-moi un film ». Et c'était assez facile à l'époque. Il faut dire que vous aviez des succès.
Quand il y a la confiance, quand les financiers ont confiance, ça devient très facile, évidemment.
Maintenant, ça ne serait plus possible.
Bah maintenant, il faut appeler tellement de monde pour faire un film, parce qu'il y a au minimum 8 à 10 intervenants, qu'il faut envoyer 20 scénarios, parce qu'il y a des comités de lecture, etc., des notes. Oui, c'est tout un travail de producteur aussi, mais différent. Parce qu'avant, le distributeur, souvent, il y avait c'était l'interlocuteur.
Oui.
MLF, Gaumont, Pathé. Mmh.
Il y a un film dont on n'a pas encore parlé, qui est énorme aussi, c'est Les Ripoux en 84. Qui naît d'une rencontre avec un flic, Simon Michael.
Simon Michael.
Ouais, et qui vous parle des Ripoux, c'est un terme que vous ne connaissez même pas à l'époque.
Du tout, non. Puis quand il m'a dit c'est du verlan, alors j'ai compris que c'était.
Oui.
Tu voulais dire pourri, quoi. Mmh.
Ouais. Et à partir de ce mot, on construit un scénario.
Oui, mais quelques anecdotes quand même que Simon m'a.
Non, mais oui.
Mais le mot fait-il parce que Ripoux, c'est amusant, quoi. Il y a quelque chose d'amusant dans le terme. Si on dit pourri, c'est beaucoup moins drôle, quoi.
Ouais. Avec Philippe Noiret, ce qui est dingue, avec Noiret qui est un peu gentleman farmer dans son look, il arrive avec une parka en cuir et c'est tout de suite le commissaire.
Bah, c'est une parka qu'on a trouvée aux puces, c'est une parka de camionneur des années 50.
Et ben, c'est tout d'un coup, ça habille le personnage.
Ah oui, mais d'ailleurs, il l'a gardée, il n'en avait qu'une, d'ailleurs, il fallait pas qu'on lui pique parce que le film s'arrêtait.
On va écouter un extrait entre lui, bien sûr, et le jeune l'ermite dans la voiture.
Ce qui me rend malade, c'est de voir qu'on fait pas notre travail.
Mais qu'est-ce que c'est notre travail?
C'est assurer la sécurité de nos concitoyens. Arrêter les délinquants. Vous savez très bien, d'ailleurs.
Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un? Ah bah dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein? Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'un mètre, interdit, article R38-7. Cette bonne femme à poil sur l'affiche, là, c'est interdit, article G92. La petite vieille qui traverse en dehors des clous, là, tiens, regarde là. interdit. Le travelo, là, au coin, le travelo, interdit en dehors des périodes de carnaval. Le clébard, qui fait pas où on lui a dit de faire, au niouf. Et les deux mecs qui fument du hache dans le passage, là, interdit. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde. Allô, voiture 26 à autorité. Envoyez une urgence, 6 quarts de police, le nouveau a arrêté 250 personnes. Eh ben, il klaxonne. C'est interdit, arrête-le.
Les ripoucles Didi, énorme succès, et enfin un portrait de la police qu'on voit pour de vrai.
Oui, hein, au passage quand même, dialogue de Didier Kaminka,
ouais,
assez brillant.
Oui.
Ça y va.
Et à mon avis, les articles qu'il cite sont des articles assez justes, quand il lui parle des infractions. Des infractions.
Oui.
Énorme succès.
J'espère.
Ben oui, oui. Non mais ça, il était très très pointilleux là-dessus, j'imagine. C'est des histoires qu'il a vécues, donc lui, c'était un peu Noiret, Simon Michael.
Oh non, non, c'était... Il n'avait pas l'âge de Noiret quand même.
Non, non, mais un peu dans les malversations et dans
ah
les...
Ah non, je crois pas, non.
Bah, je sais pas, maintenant, depuis ce film, quand on entend une voiture de police, on se dit, ils vont jouer au tiercé, hein, depuis, ça c'est depuis votre... depuis votre ah bon film, mais oui, c'est vrai. On va terminer avec un film qui s'appelle Association de malfaiteurs. Vous avez trouvé l'histoire dans un fait divers. Vous avez beaucoup gardé les faits divers, comme Truffaut le faisait d'ailleurs. Vous mettez consigné dans les petits carnets. Et dans un article, un fait divers, vous entendez cette histoire donc de quatre camarades dans une école de commerce.
Qui sont en cavale.
Oui, qui sont voilà, en cavale.
Mais ça m'amusait assez de montrer une cavale, mais avec des gens qui ne sont pas du tout habitués à la cavale.
Ouais.
Parce que c'est Simon m'a souvent parlé de cavale, de mecs en cavale. C'est très, faut beaucoup d'argent pour être en cavale. C'est très angoissant en plus. Ça m'intéressait de mettre des bourgeois.
Oui.
Des hommes d'affaires en cavale.
Et on va écouter Laurent.
Ben justement, ils arrivent chez, ils sont en cavale, ils arrivent chez le tonton de l'un d'entre eux qui, lui, est plutôt du côté de la cavale.
Et qui est
Hubert Deschamps.
Bien sûr.
Ah, Hubert Deschamps.
Extraordinaire.
Jamais venu ici. 40 km de Paris, t'es pas tranquille, tu peux encore prendre Europe Assistance. Moi, je suis né ici, c'est mon pays. J'ai vécu chez mon oncle jusqu'à mon entrée à HEC.
C'est qui ton oncle?
Le frère de ma mère, tonton Gadin.
Tonton Gadin?
Ouais. C'est un surnom, c'est un ancien coureur cycliste. Mais il tombait souvent, quoi.
Oh, qu'est-ce qu'il vient encore nous emmerder à cette heure-là? Oh, Gérard! Tu m'as pas trouvé au cimetière, alors? T'es passé ici à tout hasard?
Mais non, je sais très bien que t'es pas mort, mais tu sais, les affaires, hein, c'est... Tiens, je te présente Thierry de Roc de Plébélec.
Bonsoir, monsieur.
Oui. Eh bien.
Alors, ça y est, t'as viré ta cutie, t'es de la jaquette, maintenant?
Hein?
Avant, quand tu venais avec des gonzesses, je pouvais me rincer l'œil, mais maintenant...
Bon, tonton, je préfère que tu le saches tout de suite. On est ici parce qu'on est recherché par la police.
J'en sais plus y croire.
Quoi?
Ouf! C'est la fin d'un cauchemar! Mais je comprenais pas, moi. Un membre de notre famille qui réussit honnêtement, études, diplômes, société, PDG. Mais ça s'arrose, ça!
C'est facile d'écrire pour un ténor baryton comme Hubert Deschamps qui a une incroyable tessiture.
C'est
qui
facile
va dans le...
pour la génération se régale.
Ah oui.
Ah oui, ça, c'est une voix qui vibre. Qui
c'est
vibre
ça,
bien.
Hein, c'est quand même extraordinaire. Quoi. Ouais.
Les seconds rôles magnifiques que vous avez fait tourner, enfin, bon, vous avez eu une pléiade. Non, mais même.
Oh, souvent, oui.
Lui et d'autres.
D'autres, oui, oui.
Extraordinaires qu'on voit plus, qui n'ont plus autant d'importance dans le cinéma maintenant.
Les seconds rôles.
Les seconds rôles.
On écrit moins de seconds rôles. Enfin, on écrit moins.
Peut-être que les premiers rôles sont devenus des seconds rôles.
Ah. Ah, vaste, vaste réflexion. Ouais.
On a deux heures pour.
C'est ça, pour réfléchir.
Pour plancher.
Non, mais honnêtement, effectivement, les seconds rôles sont moins écrits que vous ne les écriviez vous. Hubert Deschamps, il a cette scène et puis, il disparaît pas. On le revoit un petit peu, mais c'est pas beaucoup, quoi. Or, il est là, il est personnifié tout de suite, il existe, il a une présence, il a un passé, un présent.
Oui, enfin, mais j'en ai d'autres, Guillaume.
Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr.
Absolument.
Et j'en oublie. Ouais.
Comment les cinéastes vous regardaient à l'époque de vos énormes succès, eux qui faisaient des films d'auteur et autres, vous voyez? Comment vous étiez perçu par la profession?
J'avoue, je me suis jamais posé la... Bah, sans doute pas trop mal, puisque j'ai quand même... j'ai eu deux Césars.
Ouais.
Donc c'est la profession qui...
Ouais.
Donc finalement...
Mais vous en faites partie de cette profession. On a l'impression que vous êtes un peu quand même à part, quoi. Vous rentrez pas tout à fait dans la profession.
Oui.
Oui. Alors, écoutez, je vais pas reprendre le mot de Godard. Hein.
Les professionnels de la profession.
Mais
vous êtes pas là. Vous êtes pas avec eux.
Mais il y a, Mais ils sont où? Bon, ils sont peut-être salle Pleyel un soir des Césars, je sais pas, mais non. La profession sont des familles différentes.
Mmh. Vous êtes bien amusé, mais oui, vous semblez sans nostalgie.
Ben non, ce serait.
Ce serait
payé cher. Oui, peut-être, mais moi non. Je vis le présent, le futur.
Mais voilà. Vous vous êtes bien marré.
Ça s'est très bien passé.
Ah, vous ne voulez pas dire que vous êtes bien marré?
Oui, je me suis bien marré, évidemment, mais enfin, bon, pas passer mon temps à éclater des rires, quand même.
Certes,
c'est du travail, quand même, c'est un peu d'angoisse, les sorties de films, c'est épouvantable. Vous êtes dans vos petits souliers, le mercredi, d'ailleurs, souvent, je partais à l'étranger, vous voyez. Hein. Quand le film sortait, je voulais pas être à Paris, je voulais pas être en France. J'étais au Sahara ou en Martinique ou au fin fond de l'Écosse. Vous voyez, parce que moi je vivais très mal les sorties.
Ce serait lequel votre préféré?
Oh ben écoutez, finalement, j'aime bien le mon premier film parce que c'est le premier.
Mmh, Libidas en folie.
Voilà. Libidas en folie, allez. Ouais. Allez, c'est le plus vieux. Et puis c'est le premier d'une longue série, j'en ai fait 25.
Vous êtes dans deux livres, Claude Zidi.
Deux livres.
Claude Zidi en toute discrétion, Vincent Chapeau.
Aux éditions hors collection.
Et le cinéma de Claude Zidi de Thibaut de Coster, fou, insolent et facétieux.
Aux belles et intelligentes éditions Leitmotiv.
Vous restez avec nous, on se retrouve après pour les sorties, mais d'abord on écoute Bertrand Belin, ça s'appelle Sur le cul.
Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin, sur le cul. Il y avait un homme ce matin, ainsi qu'une femme sur le cul. Comme hier d'ailleurs. Il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes sur le cul. Des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient. Se reposait, s'envolait. Comme hier d'ailleurs.
Sorti de ce mercredi, Laurent, on va commencer par De Gaulle, de Gabriel Lebeaumin. Mai 40, 1940, la guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l'histoire. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix, celle de la résistance. Épisode romanesque, le moment du choix et de l'engagement. De Gaulle, bizarrement, jamais raconté au cinéma, alors que Churchill outre-Manche, lui, est apparu dans 18 films.
C'est vrai. Alors, c'est en fait, dans le cinéma français, c'est une silhouette. Hein. Vous vous souvenez de l'Armée des Ombres.
Oui,
on voit un dos d'un mètre 93, mais c'est tout. Bon.
Comme si on n'osait pas le représenter.
Comme si, c'est la statue du commandeur. Bon, oui. Après tout, pourquoi pas. Alors, il y a quand même une réussite qu'il faut noter, mais elle est télévisuelle. C'est Bernard Farcy. Vous vous souvenez, le commissaire dans Taxi, donc c'est quand même, on est resté loin de De Gaulle. Mais il campe vraiment un De Gaulle dans le Grand Charles de Bernard Stora, qui lui est très très convaincant. Et ça n'est guère le cas, hélas, de Lambert Wilson. Parce que après l'abbé Pierre, Cousteau, maintenant De Gaulle, demain peut-être Maurice Thorez ou François Bayrou, je sais pas, on verra. Mais manifestement, le costume est trop grand pour même pour lui, c'est-à-dire pour sa grande carcasse, ça ne va pas. Il roule des yeux. Il est pas là. C'est pas incarné comme on le souhaiterait. Alors, c'est évident que De Gaulle, c'est quelque chose peut-être certainement difficile à appréhender. Et puis cette façon qu'a Gabriel Le Bomin de vouloir prouver à tout prix que De Gaulle est un être humain. Oui, mais on le sait. Oui, c'est un père. Oui, il a une fille trisomique et il est humain. Il embrasse sa fille. Tout ça, d'accord. Bien, mais ça ne fait pas l'objet principal. C'est assez ridicule. C'est assez sans grandeur, ce qui, quand on parle de De Gaulle, est un petit peu problématique quand même. Bon ben voilà, alors au cinéma, ben De Gaulle attend toujours son Malraux, on va dire.
La communion de Yann Komasa. Le film démarre très fort. Un atelier de menuiserie dans un centre de détention pour jeunes adultes. Une vengeance se prépare et celui qui surveille que les gardiens n'entrent pas, c'est Daniel, 20 ans, que l'on retrouve quelques plans plus loin à la messe du centre, fervent croyant comme touché par la grâce. Il aimerait devenir prêtre, mais on est empêché à cause du crime qu'il a commis. Il devra se réinsérer dans une menuiserie, mais en chemin, dans un village voisin et dans une église, il avoue à une jeune fille qu'il est prêtre. Et le récit d'usurpation commence. Il paraît que ce genre d'histoire est fréquent en Pologne, et Daniel, lui, va bouleverser la vie de la communauté. On découvre ce réalisateur, donc Yann Komasa. Ses deux précédents films sont inédits chez nous et on plonge dans cette folle histoire, brutale et virtuose, malgré quelques longueurs et une romance dont on aurait pu se passer. On plonge surtout dans le physique magnétique de ce jeune acteur, Bartosz Bieleva, une sorte de Falconetti au masculin, ambivalent, possédé par son rôle. Daniel, c'est Dieu et le diable en même temps, qui vient révéler, libérer les ouailles de la culpabilité, mais à la fin empêché par une religion qui, elle, ne donne pas de seconde chance.
Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire effectivement, ce qui ressort comme c'est la figure de l'acteur principal, qui est tout à fait étonnant, espèce de visage émacié, et qui est filmé extatique d'un côté, inquiétant de l'autre, très très bien filmé, donc avec une multiplicité de visages. Alors après, on peut trouver que le propos, le trivial contre le sacré, la violence physique contre la violence spirituelle, la Pologne de toujours contre la Pologne de maintenant, il reste certaines pesanteurs polonaises cinématographiques qu'on a connues par le passé et qui continuent un peu à persister.
C'est riche quand même, et c'est un metteur en scène super prometteur.
Oui, absolument, ouais. Mais il faudrait un peu dégraisser le mammouth de temps en temps, voilà, c'est mon sentiment.
Ça s'appelle La Communion.
Oui.
Oscar et Lily, une enfance réfugiée de Arash Riahi, c'est un cinéaste iranien installé en Autriche, et c'est le deuxième volet de sa trilogie sur l'exil, après Pour un instant de liberté. Oscar et Lily, deux enfants tchétchènes, sur le point d'être expulsés d'Autriche, suite à une tentative désespérée de leur mère pour les protéger, l'expulsion est suspendue, mais Oscar et Lily sont séparés et chacun placé dans une famille d'accueil. L'espoir des enfants de retrouver leur mère se nourrit de leur amour réciproque et met au défi tous les obstacles de la bureaucratie avec passion et poésie.
Oui, alors, bon, écoutez, ça passe et ça casse à la fois. Ah. Ça passe quand le cinéaste sait très très bien filmer la ville, ses décors urbains qui enferment ses deux enfants avec souvent des décors déshumanisés. La caméra prend de la hauteur. On a une vraie un vrai souci de capter ces moments-là. Et puis ça casse sur le pathos des deux enfants livrés à la fois à eux-mêmes et puis aussi à des familles d'accueil qui sont un tout petit peu caricaturales quand même, sans oublier les rapports avec la mère qui est hospitalisée. Il y a un final qui est archi démonstratif. Bref, voilà, entre les deux, quand ça passe, ça casse, on oscille tout le temps, on aurait aimé. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire à la fois Oscar et Lily,
une enfance réfugiée.
Oui, absolument.
Ngosowa, c'est de Edouard Joubeau, c'est un film entre fiction et documentaire. Ngo, qui est une jeune mère célibataire du sud de Madagascar, ne parvient pas à payer la scolarité de sa fille. Quand une compagnie de danse de la capitale lui propose un contrat à l'essai, Ngo saisit cette chance, quitte sa famille et monte à Tananarive.
Oui, c'est un film qui risque de plaire à Charles Gassot, vous savez, cet ancien producteur qui s'est reconverti à Madagascar dans un projet, un gros projet humanitaire, École du Monde. Beau projet, gros projet avec vraiment une... Il y consacre une bonne partie de son temps et c'est un film qui risque de lui plaire parce qu'en plus il est fait par ce metteur en scène dont vous parliez, Édouard Joubeau, qui a à peu près le même profil, c'est-à-dire c'est quelqu'un aussi qui s'est beaucoup impliqué dans une ONG locale. Voilà. Et le film est à la mesure de ça, c'est-à-dire que c'est, comme vous le disiez, mi-fiction, mi-documentaire sur cette femme, sur cette mère célibataire qui élève sa fille toute seule, qui voudrait s'en sortir. C'est le quotidien de Madagascar, mais sans le misérabilisme. C'est le quotidien musical, mais sans le pittoresque musical. C'est la danse, c'est la musique au cœur. C'est à la fois très prenant, très beau, filmé simplement, mais au plus près des corps et des cœurs, et vraiment, c'est de ce point de vue-là, réussi aussi dans le mélange de la fiction et du documentaire. C'est un film très réussi, très touchant.
Ngo Sowa. Édouard Joubeau.
Oui.
Monos d'Alejandro Landes, il est colombien. Oui. Dans ce qui ressemble à un camp de vacances dans la brume, isolé au sommet des montagnes colombiennes, des adolescents tous armés sont en réalité chargés de veiller à ce que Doctora, une otage américaine, reste en vie. Mais quand il tue accidentellement la vache prêtée par les paysans du coin et que l'armée régulière se rapproche, l'heure n'est plus au jeu, mais à la fuite dans la jungle. Au premier degré, ce serait un peu l'histoire des FARC, mais du côté des adolescents, kidnappeurs. Mais c'est surtout le récit de leur apprentissage, quitter son innocence, entrer dans la brutalité de leur mission et du monde, ou leur initiation à l'amour. Et face à eux, cette captive américaine qui cherche désespérément à s'évader, c'est une grande actrice, c'est Julianne Nicholson, extraordinaire dans le film. Ouais. Ce sont deux histoires presque parallèles, dans une nature exubérante, la forêt tropicale, qui se referme sur eux, la mise en scène est somptueuse, tout comme le travail sur le son et la musique. C'est du cinéma sensoriel, poétique et réaliste à la fois, un trip que certains rapprochent à Apocalypse Now, ou même à Sa Majesté des Mouches, peut-être, mais dans un style très personnel, très singulier. Un cinéaste colombien est né, il s'appelle Alejandro Landes.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Il y a quand même bien deux parties dans le film. C'est-à-dire une première partie où effectivement on est plus proche de Sa Majesté des Mouches, peut-être un peu de violence en moins, un peu plus de bonheur, parce que ses enfants, d'une certaine façon, ils s'amusent à la guerre. Enfin, c'est pas l'amusement total, mais quand même. Et puis il y a cette seconde partie où effectivement on est presque dans un univers chamanique, avec, vous le disiez, plutôt du Apocalypse Now, comme ça. Et c'est peut-être, pour ma part, en tous les cas, un petit peu moins convaincant, en tous les cas, un petit peu trop posé aussi parfois, mais on peut pas reprocher à un cinéaste de faire des images, ce serait pas raisonnable, et en tous les cas, le propos est suffisamment fort pour emporter l'adhésion de ce Monos.
Retenez bien son nom, il s'appelle Alejandro Landes, il est colombien. Woman de Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand. Woman est un projet mondial qui donne la parole à 2000 femmes à travers 50 pays, l'occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Ce film repose sur des entretiens à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais aussi les règles et la sexualité.
Oui, y avait eu une bonne nouvelle, hein, c'est que Yann Arthus Bertrand avait décidé de ne plus prendre l'avion pour faire des films. Bon, alors on s'était dit, tiens, il va peut-être faire autre chose, mais non, il continue quand même. Alors, il filme plus les montagnes, les lacs, les forêts vierges, les dévastées ou pas. Il filme des femmes. Il y a que lui qui peut assumer cette assimilation-là. Alors, tout est fait en studio, face caméra, ce qui est d'une pauvreté cinématographique, mais totale. On a des témoignages qui sont effectivement bouleversants parce qu'en plus, ils brassent tous les sujets, ce qui est là aussi un gros problème. La société, la politique, l'économie, la sexualité, la maternité, le travail, enfin, etc. Bon, tout ça est trop, beaucoup trop pour si peu de temps. Hein. 2 heures, c'est quand même pas beaucoup par rapport à ces histoires-là. Et du coup, ils filment ces femmes hyper sophistiquées, hyper maquillées. C'est une fois de plus la façon dont toujours Yann Arthus Bertrand a de trafiquer la réalité. On aimerait qu'il fasse un peu une pause, quoi.
Et maintenant, les cadeaux pour Claudie Di Laurent.
Oui, alors on n'a pas évoqué, parce qu'on n'a pas pu faire toute votre carrière, mais en 1962, pardon, vous tourniez Deux têtes folles avec Richard Kuhn et Audrey Hepburn. Oui. Vous avez eu Audrey Hepburn en face de vous. Alors justement, on voulait quand même fêter ça en vous offrant ce coffret qui vient de paraître chez Wildside, qui est extraordinaire, qui s'appelle, c'est le film de Stanley Donen, Voyage à deux, Audrey Hepburn, Albert Finney. Je pense que vous le connaissez. C'est une merveilleuse comédie romantique désillusionnée. C'est un coffret extraordinaire. Il y a des tas de bonus avec le coffret. Un livre dédié aussi au film. On est très très heureux de vous l'offrir parce que c'est un bel objet de cinéma et ça devrait pouvoir vous rappeler Audrey Hepburn, entre autres.
Ben oui, j'ai tourné deux films avec elle. Voilà. Celui que vous avez cité. Oui. Et Charade.
Absolument. Ah ben oui. Tout à fait. Mais oui, bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Claudine.
Le deuxième cadeau est un petit cadeau, un petit DVD, mais je pense que vous amuser. Ça s'appelle Monsieur, vous êtes veuve. Un film de Václav Horlíček. C'est un cinéaste tchèque, justement. C'est une comédie culte. C'est un peu entre Black Edwards, Roger Corman et Hawks de certains Lemcho. C'est un type qui était très célèbre. On va dire que c'est un Zidi tchèque. Voilà. C'est pour vous.
Voilà.
Et c'est chez...
Monsieur, vous êtes veuve.
Malavida.
Malavida.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci à vous, Claudine.
Merci beaucoup. Vraiment, Claudine, d'être venue. On a été charmés par votre présence. Merci.
Rare.
Bon, et alors je reste.
Voilà. Et on vous laisse les clés du générique.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs, il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs, des prises de vue sont des prises de son, Sporto Cantès a écrit la musique du générique, les morceaux ont été choisis par Muriel, Pérez, Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation, c'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Claude Didi, j'y étais.